Voilà, la question qui nous réunit ce soir dans le cadre de ce cycle sur l'éducation, c'est la question de la mixité scolaire, mixité garçons et filles à l'école, avec un sous-titre « Le désir peut-il s'éduquer ?» Puisque nous nous trouvons de fait devant une mixité scolaire qui apparaît comme une habitude, comme une évidence, et qui n'est plus guère interrogée, alors que il y aurait quelques motifs de l'interroger. Alors c'est typique des situations qui sont celles de la philosophie, c'est-à-dire que nous nous trouvons devant une opinion que personne n'est en mesure de remettre en question, parce qu'elle va de soi, et que même la remettre en question fait aussitôt passer pour quelqu'un de chagrin et d'un peu sot. Et cependant, la philosophie a précisément pour vocation de réinterroger toute pensée qui n'aurait qu'un statut d'opinion, quand bien même serait-elle vraie. Tant qu'elle n'est qu'une opinion, elle mérite d'être réinterrogée. Et c'est ce que je me proposais de faire ce soir. Deux adolescents, un adolescent et une adolescente, s'embrassent dans le couloir d'un collège. Téléphone portable à la main, tout en faisant la conversation avec les copains, en mâchant un chewing-gum. Quand on voit des adolescents qui s'embrassent dans le couloir d'un collège, au milieu des copains, téléphone portable à la main, tout en mâchant un chewing-gum, que voit-on exactement? Selon le registre habituel des conduites, on voit un geste d'amour. Touchant. Mais on peut sérieusement se demander à cette occasion ce que signifie ici l'amour. Est-ce que ces adolescents se soumettent à une sorte de norme, au fond, invisible? Est-ce que c'est un geste de sécurité affective? Est-ce que c'est un balbutiement amoureux, le commencement des émotions qui apprennent à s'identifier, qui apprennent à se dire, est-ce que c'est simplement quelque chose qui appartient donc au cliché adolescent soutenu par des feuilletons divers du genre « plus belle la vie » ou « pas belle la vie » ou « trop belle la vie », je ne sais jamais. Toutefois, il y a dans cette scène, il ne convient pas d'isoler ces adolescents qui sont en train de s'embrasser comme s'ils étaient dans une bulle, car ils se trouvent dans une école. Ils se trouvent dans une école, il y a non seulement un groupe de copains, mais il y a un adulte qui passe, puisque je les ai vus. Supposons que ce soit moi qui les ai vus. Il y a un adulte. Et alors, cet adulte, dans la suite du récit, ça ne sera pas moi, car le plus souvent, cet adulte passe en regardant le plancher. N'a rien vu, regarde le plancher. Si bien que, au fond, à l'intérieur de l'école, il considère qu'il y a une conduite qui ne met pas en jeu la relation pédagogique, ou dans laquelle la relation pédagogique est difficile à mettre en œuvre. En tout cas, il se sent embarrassé. Or, ce regard baissé, ce silence, fait justement difficulté du point de vue de l'éducation. Nous assistons, s'il y a vraiment esquive, s'il y a vraiment dérobade, nous assistons au contraire de ce que devrait être un geste éducatif, puisque l'adulte, qui passe comme s'il n'avait rien vu, ou comme si ce qu'il voyait était sans importance, ou comme si ce qu'il voit ne le regardait pas, il adopte une attitude qui contredit l'éducation, c'est-à-dire que il laisse les inerties d'une mode façonner les conduites. Au lieu que ce soit le regard de l'adulte, et au fond, il accepte cette éviction du regard de l'adulte, qui va de soi pour l'adolescent. Ça ne le regarde pas. Cette éviction du regard de l'adulte, ça n'est vraiment pas à l'école de l'accepter. Voilà une petite scène originaire, qui est d'une banalité consternante, et qui nous met donc devant les questions brutales, au fond, que soulève la mixité scolaire. En effet, celle-ci a profondément modifié nos mœurs, faisant du parcours amoureux un épisode dans la vie des copains, dans le groupe des copains, puisque il y a toujours le groupe autour, souvent le groupe, et plaçant dans l'horizon d'une non-décision, de quelque chose qui pourrait s'apparenter à un jeu, ce qui normalement signifierait un engagement. On a beaucoup de peine à faire comprendre. Enfin, pas beaucoup de peine, mais il faut en tout cas se donner les moyens de faire comprendre à des adolescents que un baiser, un enlacement, un geste de tendresse est un engagement, qu'il y a un engagement du corps. Et que le corps n'est pas simplement une matière que l'on déplace le long des couloirs. Et donc cette modification profonde des mœurs a surdéveloppé, me semble-t-il, un monde de l'adolescence comme monde de la non-décision, de l'essai, de du nomadisme affectif, du chewing-gum affectif. Quand ce n'est pas, or c'est le cas dans beaucoup d'établissements, quand ce n'est pas la porte ouverte à la violence. Porte ouverte à la violence qui fait que les jeunes filles se caparaçonnent dans des joggings qui les abritent des attouchements et des regards. Qu'on se trouve dans un monde où l'invective est constante, où des mots tels salope, chaudasse, pétasse ou enculé sont les étapes obligées de la nouvelle carte du temps, qu'on peut trouver assez différente de la carte du tendre originale. Mais c'est je suis très impressionné, y compris dans des établissements où normalement il y a une population assez civile, de la grossièreté ordinaire du vocabulaire, puisque salope et enculé font partie du, que j'ose à peine prononcer devant vous, font partie du vocabulaire le plus ordinaire. L'enjeu est d'importance, même si on affecte d'en sourire, même si on est embêté de poser une telle question, même si cette question finalement est inconvenante, l'enjeu est d'importance puisque cela pose la question de la préparation de la vie d'adulte, de la préparation d'une vie d'adulte capable de prêter un serment, capable de fonder une famille, capable de construire une société. Est-ce que l'école ne présente de l'avenir qu'un horizon professionnel? Quel métier tu vas faire quand tu seras grand? Alors que ça n'est quand même pas la première question qu'un adolescent se pose, et il me semble que ici il y a un enjeu essentiel pour l'avenir même de ces adolescents. Comme je le disais, la capacité qu'ils auront à prêter un serment, en fonction de quoi vont-ils passer du flottement d'un espace de non-décision à une décision, de déménagement en déménagement, qui remplaceront des décisions, avec des questions telles que celles que l'on voit dans les magazines, on déménage, est-ce que ça veut dire qu'on est maqué ? Question élégante et on déménage, enfin il y en a un des deux qui déménage, on emménage, est-ce que ça veut dire qu'on est maqué? La question est très bien posée, et où finalement des quittances de loyer tiennent lieu d'engagement. Alors je commencerai par quelques propos sur la mixité, l'enjeu de la mixité, les raisons pour lesquelles celle-ci s'est développée dans le monde de l'école, et puis j'aborderai la question de l'éducation du désir, parce que je crois que là-dedans, nous sommes dans une culture qui a un peu de peine à imaginer ce qu'il peut y avoir entre le désir et la loi. Et tout se passe comme si le désir était une réalité ensauvagée, spontanée, biologique et incontrôlable, et puis que la loi serait une superstructure exigée par un certain nombre de conventions, sans que l'on puisse comprendre comment les deux peuvent prendre forme l'un dans l'autre. Et or, c'est précisément la portée de l'éducation que de ménager ce chemin pour aller du désir à la loi, de l'affectivité au serment. Alors, quelques mots d'abord sur la mixité. Il est clair que nous vivons dans un temps qui privilégie cette idée de mixité, y compris d'ailleurs de la mixité sociale, les quartiers. On s'efforce de dire qu'il faut que les classes sociales se mélangent dans les immeubles et dans les rues pour lutter contre la ségrégation, mixité même des ethnies, des cultures. Bon, la question a été posée récemment. Quand ce n'est pas donc mixité de la cuisine qui nous offre un grand métissage. Ce qui explique cette aspiration à la mixité, c'est manifestement une volonté d'égalité. La volonté de bannir toutes les barrières, de lever toutes les barrières qui correspondraient à des exclusions. Le mot exclusion est un mot fort et qui est ressenti comme la faute par excellence. Le but de la mixité, par exemple, si je prends l'exemple simple de la mixité sociale dans un immeuble, espérant que les gens apprendront à se connaître, à se rencontrer, à se parler, et à ne pas avoir les uns à l'égard des autres cette hostilité sourde ou criante qu'ils ont, c'est de promouvoir les conditions d'une égalité réelle. Qui ouvre les lieux de bannissement, les lieux d'exclusion que peuvent être le gynécée, le quartier des femmes. Effectivement, dans la société grecque, le lieu des femmes était l'intime, la maison, le lieu des hommes c'était la place, la tribune. Et n'était vraiment dans son statut humain que celui qui prenait part aux affaires publiques. Les Grecs étaient très loin de placer dans l'intime le cœur de leur vie. Et cet intime était réservé donc aux femmes. Et donc ouvrir le gynécée pour rompre des situations d'exclusion, ouvrir les ghettos, abolir la différence entre les périphéries urbaines et les centres. Cette volonté de mixité nous conduit à devant quatre termes qui sont mélangés mais qu'il convient de bien distinguer. C'est la différence entre les sexes. On va accepter ce soir qu'il y ait une différence. On peut revenir dessus, je veux bien, mais dans mon exposé, je considérerais qu'il y a une différence. La différence, l'inégalité, la domination et l'exploitation. Parce que les quatre notions sont mélangées. La différence, par elle-même, ne contredit pas nécessairement l'égalité. Les blonds et les bruns sont différents, les yeux noirs et les yeux bleus sont différents, il y a un grand nombre de différences qui ne sont pas ressenties comme porteuses d'exclusion ni d'inégalité. Faudrait-il nier la différence pour qu'il y ait égalité, il est clair que ce serait une absurdité. Et que, donc, jamais l'égalité juridique, sociale, économique, spirituelle, n'a à être confondue avec l'identité. Affirmer que les hommes et les femmes sont égaux n'a jamais ou n'aurait jamais dû conduire à affirmer qu'ils sont identiques. Pas plus que l'on ne peut être sommé de dire que les bruns et les blonds sont identiques. Là où la différence fait difficulté, c'est effectivement quand elle est porteuse d'inégalité. L'inégalité signifie que les deux sujets différents sont rapportés à un même but. Il y en a un qui en est plus près, un qui en est plus loin. Sont rapportés à un même profit. Il y en a un qui en a plus, il y en a un qui en a moins. Par exemple, entre le fort et le faible, il y a une différence. Il y a des gens costauds et des gens moins costauds. C'est une différence. Seulement, ça devient une inégalité dans une épreuve d'haltérophilie. Et donc, il y a un moment où, si elles sont rapportées à un objectif, les différences deviennent inégalités. La question peut se poser si on observe les inégalités de salaire entre hommes et femmes, si on observe les inégalités de diplôme entre hommes et femmes, les inégalités d'accès aux responsabilités, là oui, on peut dire, attention, c'est pas seulement une différence, c'est une inégalité. Et dans la mesure où cette inégalité contredit une exigence de justice, contredit la participation aux libertés publiques et à la reconnaissance. Parce que qu'est-ce qui est en jeu dans l'égalité? C'est pas une question de quantité, c'est une question de reconnaissance. Pourquoi voulons-nous l'égalité? Non pas pour avoir la même somme dans notre bourse, mais pour avoir la reconnaissance. Or, entre inégaux, il n'y a pas reconnaissance. Enfin, Hegel nous expliquera qu'il y en a une certaine, mais nous considérons que, entre inégaux, la reconnaissance est difficile. Il y en a un qui sera traité comme objet. Et donc l'exigence d'égalité est bien plus profonde que celle de la simple balance économique juridique qui permettrait d'assurer des revenus ou des droits. L'essentiel, c'est la possibilité de la reconnaissance. Et entre hommes et femmes, il y a beaucoup à faire dans cette possibilité de la reconnaissance. Aussi, l'inégalité pose-t-elle question en ce qu'elle est une domination. Il peut y avoir des inégalités qui ne soient pas des dominations. Donc l'inégalité est problématique quand elle devient domination. Domination, ça veut dire que il y en a un qui exerce un impératif, un imperium par rapport à l'autre, qui a un pouvoir de commandement, qui a un pouvoir d'initiative, et que l'autre lui est soumis. Un petit et un grand sont inégaux, rapportés à la toise. Cette inégalité n'est source d'interrogation que dans la mesure où elle est domination, si jamais le grand, mettons en général c'est lui, prend une position dominante par rapport au petit, Et donc la question, c'est bien celle de la mise en évidence d'un pouvoir. Et l'intérêt des revendications féministes, justesse me semble-t-il, des revendications féministes, c'est d'avoir mis en évidence que entre l'homme et la femme, il n'y a pas simplement différence, il n'y a pas simplement à la rigueur inégalité, il y en a des plus faibles, il y en a des plus forts, mais il y a un pouvoir qui est à l'œuvre. Et que ce pouvoir peut être discret, il est d'ailleurs d'autant plus efficace qu'il est discret. Donc la femme de Molière, la femme selon Molière, dans Le médecin malgré lui, dit « Et s'il me plaît à moi d'être battu ?» Donc elle accrédite le pouvoir qu'elle reçoit. Au fond, ce pouvoir paraît anodin et même plutôt rigolo. Mais on pourrait souhaiter que, au contraire, il soit dénoncé. Mais enfin, qu'il y ait pouvoir, on peut dire aussi que c'est inévitable dans une société. Il y en a des qui commandent, il y en a des qui sont commandés. Il y a des professeurs, il y a des élèves, il y a des directeurs, il y a des employés. Plus qu'un pouvoir, ce qui est mis en question, c'est une exploitation. Voyez la gradation. Différence, inégalité, domination, exploitation. L'exploitation signifie que non seulement il y a pouvoir, mais que celui qui exerce cette position dominante a intérêt à ce que le dominé soit nié dans son statut, soit détourné à son profit. Et donc entre le pauvre et le riche, il y a inégalité, il y a sans doute domination. Et par exemple, le marxisme a dit, mais attendez, il n'y a pas seulement inégalité, il n'y a pas seulement domination, il y a exploitation. C'est-à-dire que le riche a intérêt à maintenir le pauvre dans sa pauvreté. Il n'y a pas des pauvres comme ça par hasard, mais il y a des gens qui ont intérêt à mettre en œuvre ces mécanismes. Voilà. Alors, toutes les analyses concernant les rapports entre les sexes ont contribué à mettre en évidence que entre l'homme et la femme, il peut y avoir rapport d'inégalité, il peut y avoir rapport de domination, il peut y avoir rapport d'exploitation, et que une des tâches les plus nécessaires à la justice, à l'égalité, et c'est pas fini, c'est bien celle de l'émancipation de la femme. De ce point de vue, d'ailleurs, nous avons été largement servis par le développement de la technique et de la culture. Puisque ce développement de la technique et de la culture libère un certain nombre de fonctions qui étaient celles dont le gynécée s'occupait, et donc exonère d'un des éléments essentiels de la différence et de la domination qui était celui de la force. Maintenant, nous vivons dans une époque bien heureuse où même une femme peut être pilote de chasse. Enfin, s'il est bien heureux que même une femme ait le droit de tuer. Mais enfin, c'est le bienfait de la technique que même une femme peut tuer. Super. Et donc, nous sommes dans un monde où, au fond, le recours à la force n'est plus une nécessité. Si bien que il y a un certain nombre d'habitudes qui sont interrogées peu à peu par là. Et c'est probablement ce qui a conduit, donc, avec les meilleures intentions du monde, à l'idée d'une mixité scolaire qui sorte l'éducation des filles de l'unique préparation de la bonne ménagère. Les humanités féminines. qui permettait de préparer, d'ailleurs fort bien, d'excellentes ménagères, au fond prédisposées par leur éducation à la mission qui serait la leur. Seulement, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que la première chose que l'on peut observer, qui est très étonnante, enfin, mais qui est tellement banale, c'est que, d'ailleurs, c'est vrai aussi de la mixité sociale, il faut adopter pour cela une attitude volontariste, même très volontariste. Vous laissez des étudiants s'installer librement dans une salle de classe, vous aurez les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Vous regardez les gens discuter dans la rue, vous avez les messieurs devant qui parlent de football et les dames derrière qui parlent de chiffon et de couche-culotte. Et donc vous avez une sorte de répartition spontanée, de telle sorte que il faut vraiment s'obliger à lier des personnes qui au fond spontanément ne sont pas très disposées à discuter. Je prends l'exemple de la mixité sociale, c'est encore plus frappant. Les fameuses soirées d'immeubles, l'immeuble en fait, ça part d'un bon sentiment, que les gens se rencontrent, que les gens se parlent. Et vous voyez que très rapidement, ils se ventilent d'une manière qui semble quasiment destinale, et dans lequel se recomposent des affinités par ressemblance. Et donc le semblable attire le semblable. Qu'il faille pour cela adopter une attitude volontariste nous alerte, c'est-à-dire que on a l'impression d'être devant une construction mentale, quelque chose qui est un artifice élaboré pour les besoins d'un plan de justice, mais qui méconnaît quelque chose qui serait naturel, d'où la fameuse question, ces différences sont-elles naturelles? Plus, non seulement ces attitudes sont volontaristes, mais cette mixité des sexes, ainsi d'ailleurs que la mixité sociale, qui est là encore tout à fait comparable, semble sous-tendue par un discours contradictoire. Car on entend deux choses, et qui semblent dire semblent avoir le même but, c'est s'agit-il de respecter les différences ou d'ignorer les différences. C'est bien malin qui s'y retrouve. Parce qu'on nous dit que la mixité des sexes à l'école devrait permettre le respect de la différence. Mais au même moment où tout le discours contribue à dire « Mais au fond, entre garçons et filles, il n'y a pas de différence. » Et il en va de même, d'ailleurs, pour les classes sociales et pour les groupes ethniques. Respecter les différences, est-ce dénier les différences? C'est la question de mon exposé ce soir. Comment faire que le respect des différences ne soit pas précisément confondu avec le déni des différences? Or, dans la mixité scolaire, c'est bien ce devant quoi nous nous trouvons. J'ai un grand nombre de collègues qui se vantent, ils ont sûrement raison, mais je suis incapable d'une telle vantardise, de parler de la même manière aux garçons et aux filles, de traiter de la même manière aux garçons et aux filles, et d'ailleurs de ne voir vraiment aucune différence entre les garçons et les filles, qui sont également gens, également capables de culture, également capables de tout ça. Or, là je vais dire quelque chose de très incorrect. On est entre amis. On risque de ne pas l'être longtemps. On dénie au fond qu'entre garçons et filles, il y ait des différences, par exemple, intellectuelles, des différences psychologiques, des différences de comportement, des différences de Weltanschauung, de vision du monde, etc. Eh bien, il ne reste plus que la différence génitale. Donc, un garçon et une fille, finalement, ne sont plus qu'un sexe. D'ailleurs, de ce point de vue, s'il n'y a plus que la différence génitale, après tout, garçon ou fille, qu'importe. Je trouve que là, il y a une contradiction très très profonde dans nos mentalités, qui se présente comme une redécouverte du corps, sens du corps, sens de la libération du corps. Et puis où au fond on nie que avoir un corps différent entraîne d'avoir une psychologie différente, entraîne d'avoir des formes d'intelligence différentes, entraîne d'avoir une sensibilité différente. Merci d'avoir un corps différent n'entraîne pas d'avoir une intelligence différente, d'avoir une sensibilité différente, d'avoir une vision différente. Qu'est-ce que le corps? 55 kilos de viande ou 70 kilos selon le sexe et qu'on transporte d'un point à l'autre. Avec un organe sexuel dont vous demandez quoi ici. Enfin bon, je ne vous demande aucune précision. Le résultat est de cette mixité n'est pas très encourageant, objectif. C'est dommage. C'est dommage. D'abord, il n'est pas vrai, toutes les enquêtes le montrent, il n'est pas vrai que la proximité diminue l'hostilité. Et même, si vous lisez ou relisez le livre de Bourdieu, La misère du monde, dans lequel Bourdieu interview des personnes de milieux qui généralement n'ont pas accès au langage, n'ont pas accès aux moyens d'expression et qui disent leur vie quotidienne avec leurs mots à eux. C'est effrayant. Le voisin, c'est toujours l'ennemi. Et a fortiori, si ce voisin est d'une couleur de peau différente, d'une langue différente, et les haines qui peuvent se cultiver d'un palier à l'autre ou de derrière une haie sont inouïes. Et c'est une grande naïveté qui nous fait croire que la proximité nous permettrait de mettre un terme à l'hostilité. Il semble même qu'au bout du compte, ce soit l'inverse. On nous vante en général les immeubles qui, jusqu'au XIXe siècle, mélangeaient les classes sociales d'étage en étage. Oui, mais ces classes sociales qui étaient mélangées à l'intérieur de l'immeuble étaient hiérarchisées. Ce qui leur permettait de s'entendre, c'est que c'était la bonne qui était au dernier étage, et puis les employés aux étages en dessous de la bonne, et puis les patrons au premier étage où il y avait un balcon. La coexistence des différences, je ne sais pas, je l'ai pas vécu, je suis né juste après, la coexistence des différences semblait, nous paraît harmonieuse parce que elle était accompagnée d'une hiérarchie qui était aussi une forme, sans doute, de domination et d'exploitation. Mais, ignorée. Quand on exhibe ces situations de domination et d'exploitation, il ne semble pas donc que l'on gagne beaucoup en amitié, en fréquentation, en connaissance, etc. Vous connaissez tous les vacances du petit Nicolas, qui est vraiment un des livres de philosophie les plus importants qui soient. Et dans les vacances du petit Nicolas, le petit Nicolas dit « Nous, à l'hôtel des vagues, ceux de l'hôtel des flots bleus, on les aime pas. » Et vous pouvez prendre alors n'importe quelle situation, très vite, bon, il y a des enquêtes psychosociologiques qui ont montré ça de manière constante, hein. Il suffirait que nous séjournions quelques heures ensemble, et j'en entendrais qui diraient nous du côté gauche, ceux du côté droit, on leur parle pas, ils sont pas comme nous. Et donc il y a quelque chose d'irréductible quand même dans ce jeu d'hostilité, de rivalité mimétique, car plus on est proche, plus on est rivaux. Et c'est ce que René Girard a bien décrit à travers le mot de rivalité mimétique, et donc il y aurait quelque naïveté à s'imaginer que la proximité mettrait un terme aux inégalités, aux exploitations. Et c'est vrai, je n'ai aucune envie de me voir sur le tableau, il est assez connu, c'est vrai de la mixité des sexes à l'école. Il est clair que tous les chiffres le montrent, qu'il y a une augmentation considérable des violences entre garçons et filles dans les collèges. On doit en être à 150 000 faits graves l'année dernière. Que ce sont des épisodes qui peuvent apparaître comme des exceptions, des épiphénomènes, mais enfin les viols, les agressions, les tournantes, ne sont pas anecdotiques, et donc il y a une atmosphère de violence potentielle qui fait que les filles sont en gros réparties en pétasses ou en casse-pets, et où il y a donc objectivement une certaine violence qui est peut-être inévitable, mais la question qui est posée, c'est que font les éducateurs, que font les professeurs, que font les adultes face à une telle situation. C'est d'ailleurs pourquoi aux États-Unis, on développe de plus en plus l'éducation séparée. Tout semble, c'est dans un livre qui s'appelle « Les pièges de la mixité scolaire » d'un sociologue qui s'appelle Michel Fize. Tout semble parti d'une initiative conjointe de la sénatrice démocrate Hillary Clinton, à l'époque elle n'était que sénatrice, et de sa collègue Hutchinson, déposant en juin 2001 un amendement favorable aux écoles publiques non mixtes. Moins de un an plus tard, en mai 2002, le président Bush reprenait l'idée à son compte et décidait de lever l'obligation de mixité dans l'enseignement public, inscrite pourtant dans la loi en 1972, dans la foulée du combat contre la ségrégation raciale. C'est ainsi que les Sanske Sex Schools ont pris leur essor aux États-Unis. À ce jour, 400 000 enfants du privé sont concernés par la séparation des sexes, mais seules 47 écoles publiques offrent une séparation totale ou partielle de leurs élèves. Le débat sur la mixité est aujourd'hui ouvert en France. Pardon. Mais donc devant le spectacle de ces violences, la question se pose. Non seulement le spectacle des violences, mais on peut penser que les stéréotypes du féminin et du masculin n'ont pas diminué. Ils ont même plutôt tendu à la caricature. Puisque plus que jamais, me semble-t-il, le garçon qui veut s'affirmer, alors d'autant plus qu'on nous souligne au passage que la mixité est très défavorable intellectuellement aux garçons, et que la réussite sociale des filles, la réussite scolaire, pardon, des filles, met les garçons dans une position d'infériorité qu'il rattrape en étant d'autant plus macho et en cultivant d'autant plus des attitudes qui se montrent conformes au stéréotype d'une virilité peu subtile. Et d'où vient l'erreur? Cherchez l'erreur. La première erreur consiste à interpréter après coup les motifs. Parce que je suis un des seuls dans la pièce à pouvoir témoigner de cette époque où on est passé des établissements séparés aux établissements mixtes. La présentation que j'en ai faite au début était sympathique. La réalité, c'est que c'était des motifs de rationalisation des effectifs. C'est comme la carte scolaire, qu'on nous présente maintenant comme une mesure de mixité sociale, alors que c'était purement et simplement une mesure de rationalisation des effectifs. Bon, de telle sorte que la mixité s'est installée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la mixité s'est installée sans qu'aucune équipe enseignante n'y ait songé. Sans qu'aucune équipe enseignante se soit jamais dit « on va faire de la mixité une réalité pédagogique ». Non, on en a fait une réalité de fait. On a mis des garçons à côté des filles. Et il n'y a pas d'établissement, à ma connaissance, disons peu, parce que je ne connais pas tout l'établissement, qui se soit préoccupé de faire de la mixité une conduite pédagogique. Il faut simplement dire, on va rationaliser les effectifs en mettant garçons et filles ensemble, on va rationaliser les déplacements des parents en mettant garçons et filles ensemble, on va rationaliser, puisque c'est lié aussi à la carte scolaire. Et donc les enseignants se sont trouvés impréparés à la question, dans un contexte dont il faut souligner en outre qu'il était celui d'une libération sexuelle dans les mentalités, au moins dans les mentalités. Puisque vous savez que le point de départ des événements de mai 68, c'était le mouvement du 22 mars, et que le mouvement du 22 mars avait pour principale revendication la mixité de l'internat de Nanterre. Et si le mouvement de mai 68 est parti de Nanterre, c'est parce que la grande revendication, c'était celle de la mixité de l'internat. Et dans un contexte de libération sexuelle. Si vous associez une impréparation pédagogique et un contexte de libération sexuelle, vous avez des adultes qui ne se sentent absolument pas en mesure de formuler un interdit. Qui se sentent même coupable en quelque sorte de formuler un interdit. J'ai même entendu des blagues imbéciles de la part d'un certain nombre de mes collègues au moment où on se posait la question de savoir s'il fallait mettre un WC garçon, un WC fille. Et ils prenaient des airs affranchis, disant « Oh, ça c'est des distinctions d'un autre temps ». Bon, on a vite vu que c'était pas vraiment des distinctions d'un autre temps. Et qu'il est prudent de mettre des WC garçons et des WC filles. Et que celui qui se prétend affranchi, oh, quelle distinction obsolète, est simplement un imbécile. Dangereux. Cherchez l'erreur. Deuxième erreur, tout ceci repose sur un béhaviorisme naïf. Je rappelle ce que c'est que le béhaviorisme. C'est la doctrine philosophique qui consiste à dire que tout repose sur des apprentissages. Que la conscience est une boîte vide, empty case. Que cette conscience se forme par stimulation et information. Et que donc il suffirait de de voir fréquemment une réalité pour que elle cesse de paraître étrange, qu'elle cesse de paraître nouvelle, et pour se familiariser avec elle. Ce behaviorisme naïf, c'est celui qui fait qu'il y a des gens qui mettent des cartes de géographie dans les WC en espérant que leurs enfants apprendront la carte de France avec ça. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils croient qu'il y a des stimuli et puis que ces stimuli, on les enregistre. On ne marche pas comme ça. Heureusement d'ailleurs qu'on ne marche pas comme ça. Ce behaviorisme naïf a conduit à éduquer en ignorant finalement la réalité du désir et en espérant que ce désir, alors là c'est un point qui est très important pour notre sujet, me semble-t-il, en espérant que ce désir serait, à défaut d'être mis en forme par une règle, il serait assagi par l'habitude. Quelle naïveté. Quelle naïveté. J'ai entendu un grand nombre de collègues dire, mais à partir du moment où garçons et filles seront habitués à vivre ensemble, il n'y aura plus de questions. Par bonheur, un garçon ne s'est toujours pas habitué à être assis à côté d'une fille, et une fille ne s'est toujours pas habituée à être assis à côté d'un garçon. Et je vois pas bien où serait le gain, d'ailleurs, à ce qu'ils s'y habituassent. Heureusement que ça reste émouvant pour une fille d'être assise à côté d'un garçon. Heureusement que ça reste émouvant pour un garçon d'être assis à côté d'une fille. Et l'idée que l'habitude puisse tenir lieu de règle est une idée très très sotte. C'est comme les naturistes qui disent de voir des femmes nues, ça me fait plus rien. Ben moi, ça me fait toujours quelque chose. Et je vois vraiment pas où serait le bénéfice que ça me fasse plus rien. Très content que ça me fasse quelque chose. Et l'idée que l'habitude serait une sorte de domestication, vous voyez, qui rendrait indifférente la réalité du désir, est une idée à la fois naïve et sotte. Voilà. Alors, j'en viens au deuxième point, le désir et son éducation. En tout cas, on a déjà un acquis, c'est que l'habitude ne calme pas le désir, l'habitude n'éteint pas le désir, l'habitude n'étouffe pas le désir, et heureusement. Que le désir, il est... justement, l'inquiétude de l'autre, l'inquiétude de la reconnaissance, et que cette inquiétude de l'autre, elle est essentielle à notre identité. Nous sommes celui auquel un autre manque. C'est pour ça que les adolescents sont un peu embêtés. De telle sorte qu'il ne suffit pas d'une cohabitation de fait. Là encore, il ne faut pas se laisser tromper par des comparaisons. Souvent, on dit, mais enfin, la famille est mixte. Donc, ça ne fait pas de problème. Quelle erreur. Dans la famille, tout est inégal. Tous les âges sont inégaux. Tous les statuts sont inégaux. Et dans la famille, règne justement la loi, qui est la loi par excellence, qui est l'interdit de l'inceste. Et ce qui fonde la famille, c'est précisément cette loi. Et donc, moi je veux bien qu'on prenne l'exemple de la famille, mais alors ce serait que ce soit précisément pour rappeler que la famille n'est une famille que pour autant qu'il règne la loi. Et que cette loi est rappelée en toute chose. Et que il règne donc, on est loin d'être dans une société d'égaux et que l'interdit y règne à tout point de vue. Pour comprendre comment le désir peut être éduqué, il faut comprendre, alors je vais être rapide, je vais bien revenir dessus si je suis trop rapide, il faut comprendre comment comment nos émotions peuvent prendre forme de décision. Parce que c'est ça la question des adolescents qui s'embrassent dans le couloir. Comment nos émotions prennent forme de décision? Est-ce que c'est vraiment le bon? Est-ce que c'est vraiment la bonne? Et qu'est-ce qui permettrait d'avoir un chemin qui aille du bouleversement? Parce que ce bouleversement, il est vrai pour tout le monde. Dès que j'ai une femme dans les bras, je suis ému. Qu'est-ce qui va faire que cette émotion va prendre ou non forme de volonté, de décision? Alors, on va faire un petit peu de philosophie, vous êtes venu pour ça. On va supposer que, c'est une hypothèse, on va supposer que il y a premièrement la sensation. La sensation comme rencontre d'un sens et d'un objet. Il fait chaud, il fait froid, ça fait mal, ça fait du bien, etc. Tout commence à la sensation. Il n'y a pas de pensée qui ne soit à un moment ou à un autre mise en mouvement par une sensation. Mais la sensation, par elle-même, n'est pas identifiable. C'est justement l'enjeu de toute l'éducation. Ça, la psychanalyse nous l'a bien montré. Parce que vraiment, s'il y a une chose que la psychanalyse nous a bien permis de comprendre, c'est que toute l'affaire dès l'éducation, c'est d'arriver à associer une pulsion et une perception. C'est pas évident. Par exemple, nous ne savons pas si c'est douleur ou plaisir. Il y a des moments où nous éprouvons des sensations telles que nous ne savons pas si elles sont douleur ou plaisir. Il y a des sensations dont nous ignorons même si elles sont de chaud ou de froid. Il y a des sensations dont nous ignorons même où elle nous affecte, par exemple dans les maux de dents. Notre corps est une page sur laquelle s'écrivent des sensations, mais au fond, ces sensations, nous apprenons à les identifier. Donc tout le rapport avec l'autre, tout le rapport avec la maman qui porte, qui soigne, qui fait gousu-gousu, etc., fait des câlins, tout le rapport avec l'autre est l'apprentissage de la lecture sur la page du corps. Tu vois, ça c'est propre, tu vois, ça c'est sale, tu vois, ça c'est chaud, tu vois, ça c'est froid, ça c'est rugueux, ça c'est lisse, ça c'est un plaisir, ça c'est un déplaisir. Et celui qui n'a pas appris à lire la page de son corps, il devient potentiellement ou réellement pervers. Parce qu'au fond, il n'arrivera plus à identifier, même si c'est plaisir ou déplaisir, si c'est tourment ou jouissance. Une sensation doit donc être associée à une imagination, à une image de notre corps. Cette imagination, c'est là que se déploie la culture. Les chansons, les dessins, les gestes, les coutumes, les conventions, etc., sont cette association d'une sensation et d'une imagination. Je prends un exemple qui est classique. Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, recueilli par le docteur Itard à la fin du XVIIIe siècle. Docteur Itard recueille un garçon de 10-12 ans qui marchait à quatre pattes, mangeait des noix en craquant avec ses dents, etc., dans l'Aveyron profond. Il recueille cet enfant et le recueillant, il le lave, il le nettoie, il l'habille, et voilà que Victor, qui avait des sensations pachydermiques, se met à avoir une sensibilité. Sa peau s'affine, il sent plus de choses. Et avec cette sensibilité qui s'éveille grâce au bain chaud, s'éveille aussi la sexualité de Victor, qui devient pubère et se jette en des mouvements désordonnés et violents sur toute femme de tout âge et de toute condition. C'est-à-dire, Victor éprouve des sensations, mais il ne sait pas ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais entendu un poème, il n'a jamais vu un film, et pour cause, il n'a jamais regardé un tableau, et il n'a jamais écouté une pièce. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Pour qu'il sache ce qui lui arrive, il faut qu'à la sensation soit liée une imagination. Nous ne serions jamais amoureux si nous n'avions pas entendu de chanson. On va donc dire, vous êtes prêts, c'est un cours. Une sensation plus une imagination, ça donne une émotion. Je suis troublé. Sensation. Je suis amoureux. Émotion. Oui, mais l'émotion est une perception, il faudrait s'arrêter longuement sur l'idée d'émotion, qui est vraiment l'enjeu de notre sujet. Une émotion, c'est un plaisir, un déplaisir, c'est la perception d'une valeur. Une émotion, c'est vraiment le toucher de la valeur, comme le dit Ricoeur. Et si bien que j'entrevois dans l'émotion que quelque chose a du sens, que quelque chose est agréable ou dangereux, et ce sens, je l'aperçois dans un bouleversement qui désorganise mon action. Ce sens, il reste comme enveloppé encore dans l'émotion, qui d'ailleurs n'aura pas de durée, car les émotions ne durent pas. L'émotion amoureuse ne dure pas plus que la douleur. C'est ce que nous dit Épicure, quand tu souffres, dis-toi que ça ne durera pas. Si bien que si je veux dégager la vérité qui était contenue en germe dans l'émotion, il faut que cette vérité, en quelque sorte, je me décide à y être fidèle. Je dis, il ne faut pas que j'oublie que j'ai admiré ça. Par exemple, vous savez, quand on a vu des choses belles, qu'est-ce qu'il y a de plus triste quand on est en présence d'un paysage superbe, puis tout d'un coup, on entend Jojo, mets ta veste, il fait froid. Et là, on se dit, non, il faudrait que je reste fidèle à l'émotion que j'ai eue. Et donc, cette émotion, elle va devenir un sentiment dans la mesure où elle est liée à un serment. Un sentiment, c'est un serment avec soi-même. Vous suivez? Une émotion plus une imagination, ça donne une émotion. Une sensation plus une imagination, ça donne une émotion. Une émotion plus un serment, ça donne un sentiment. Je suis bouleversé. Je suis amoureux. Je t'aime. Au moment où je dis je t'aime, je suis pas ému. Je vais plus loin que l'état actuel de mes sensations. Je prononce une phrase qui est un serment. D'ailleurs, quelqu'un qui entend « je t'aime » entend un serment, il n'entend pas un constat. Pourquoi est-ce que je passe à ce serment? C'est parce que je pense qu'il est fondé en raison et qu'il est raisonnable de prêter serment. Et à ce moment-là, si au sentiment, j'ajoute une raison, le sentiment devient devoir. C'est reparti. Une sensation plus une imagination, ça donne une émotion. Une émotion plus une volonté, ça donne un sentiment. Un sentiment plus une raison, ça donne un devoir. Je suis bouleversé. J'aime. Je t'aime, je dois t'aimer. Là-dedans, il y a des sauts, il y a des crises, mais il y a un mouvement qui est le déploiement même de la conscience, qui ne fait pas autre chose que extraire toute la vérité contenue dans la sensation. Mais encore faut-il se donner les moyens de l'extraire et de suivre tout le parcours qui nous montre que, par exemple, il n'y a pas de contradiction entre le devoir et le sentiment. Non seulement il n'y a pas de contradiction entre le devoir et le sentiment, mais je vous ai raconté cette histoire pour vous plaire. Maintenant, je vous la raconte pour vous déplaire. Je vous l'ai raconté pour vous plaire parce que je vous ai caressé dans le sens du poil en commençant par la sensation. Là où vous êtes dit, c'est du solide. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. Dans la réalité, on commence par le devoir. Ça, j'ai eu l'occasion de l'expliquer hier à des adolescents et c'est fantastique, ils l'ont compris immédiatement. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que je leur ai expliqué que on décide d'aimer avant d'aimer. C'est gentil. Je me rends capable d'aimer avant de rencontrer la personne que j'aimerais. Et si je ne me suis pas rendu capable d'aimer avant de rencontrer la personne que j'aimerais, ben je la rencontrerai jamais, je rencontrerai une pétasse. Car les gens ne nous répondent qu'à la question qu'on leur pose. Et si je lui pose une question de pétasse, elle me répondra en pétasse. Et de telle sorte que, en fait, c'est le serment qui commence, voyez. Je me promets d'être quelqu'un capable d'aimer. Eh bien, notre travail d'éducateur, puisque je me permets de dire nous, notre travail d'éducateur, il est précisément celui-ci. De faire comprendre à un adolescent qu'il est extrêmement précieux pour lui et pour les personnes qu'il rencontrera, d'être quelqu'un qui se rendra capable d'aimer. Autrement dit, je suis fidèle à la personne que j'aimerais avant de la connaître. Et c'est en cela que les conduites de qu'on n'ose même pas qualifier de flirt, de ce que j'ai appelé tout à l'heure chewing-gum affectif, sont redoutables parce que elles usent des sensations qui finalement se défont, se dévalorisent, se décolorent, qui font naître progressivement une sorte d'ironie sur elles-mêmes. Et les sensations usées précocement, on aura beaucoup de peine à en faire naître la vérité. Et c'est pourquoi donc il est essentiel de penser que le désir peut s'éduquer. Premièrement, en mettant l'enfant, l'adolescent, dans sa véritable situation qui est celle du sérieux. S'il y a une chose qui caractérise les jeunes, c'est qu'ils sont sérieux. Rien n'est pire que l'attitude des adultes qui les prennent à la blague. Ils ont ça en haine. Et a fortiori, leurs amourettes. Il est essentiel que leurs amourettes soient prises au sérieux, qu'on leur dise « c'est grave ce que tu dis, c'est grave ce que tu fais ». Et si un professeur, maintenant je reprends les adolescents dans le couloir, si le professeur intervient auprès de ces adolescents dans le couloir, c'est pour leur signifier, non pas que ce qu'ils font est mal, mais que ce qu'ils font est grave. Et que c'est grave parce que précieux. Parce que ça a du sens. Non pas c'est mal, mais c'est tellement bien. Que ça ne mérite pas d'être gaspillé comme un chewing-gum. Il y a un appauvrissement de la sensibilité qui se fait par l'usure des gestes, par l'usure des sensations, l'usure des bouleversements, l'usure des plaisirs, disons-le. Parce que quand même, s'embrasser, c'est un bouleversement du corps. C'est quand même très étonnant quand on voit des élèves qui sortent d'un baiser torride et rentrent en salle de classe. Moi, quand je sors d'un baiser torride, j'ai beaucoup de peine à reprendre mes esprits. Et à pouvoir resuivre derrière un cours de philosophie et à tenir des raisonnements sur le destin économique de la Grèce. Nous sommes c'est ce que dit Hume, nous sommes des instruments à cuivre. Et les instruments à cuivre, c'est des instruments à cuivre. Bon. Les cuivres. ou à cordes, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, nous sommes des instruments qui continuent de vibrer après qu'on les ait pincés. Ce qui est quand même la, une des bonnes définitions de l'émotion. Et donc, il est impensable que des gamins s'embrassent et aillent derrière faire des mathématiques. Ou alors, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ils sont complètement ironiques, et même aux deux moments. Et s'ils sont complètement ironiques, au fond, tout ce qu'ils font est de l'intérieur dévalorisé. Donc, premièrement, signifier l'importance et la gravité de ces gestes. Deuxièmement, lutter contre l'idée que les sentiments ne se commandent pas. Lutter contre la spontanéité ou la prétendue spontanéité des instincts, des pulsions, etc. Car, revenons à ces adolescents qui s'embrassent dans le couloir. Est-ce vraiment un besoin? Est-ce vraiment un besoin irrépressible? Non, il mime. Quand on est amoureux, on mime les amoureux. Et il est important de manifester que ça n'est pas un geste instinctif, mais que c'est un geste volontaire, que c'est un geste qui a du sens précisément parce que il est volontaire et que l'on n'a pas affaire à une nécessité organique semblable à celle de vomir ou de pisser. Et encore, on peut se retenir. C'est vraiment essentiel. Enfin, on est obligé de dire des choses simples, mais sur le fait que notre corps n'est pas un destin et que il y a toute une part de mime qu'il faut reconnaître que ce serait dommage que ce soit un besoin. C'est ce qui distingue justement le besoin et le désir. C'est pour ça que la question qui nous réunit, c'est une éducation du désir est-elle possible? À la rigueur, je veux bien qu'on concède que le besoin a quelque chose d'irréductible. Le désir, lui, nous fait rentrer dans le monde du sens et de la conduite volontaire. Enfin, il faut refuser de penser, et c'est pour ça que l'éducateur a tort de regarder le plancher, il faut refuser de considérer que c'est une affaire privée. Parce que précisément, c'est un geste public, et que c'est un geste qui est fait dans l'école. Et que tout geste fait dans l'école prend sens dans l'école, par l'école. Et donc, dans la mesure où ce geste est affiché, il m'implique, il fait de moi un complice. Rien ne me dit, donc il m'est arrivé souvent dans ma carrière d'intervenir là-dedans. Chaque fois, d'ailleurs, j'aurais des tas d'histoires à raconter. Ça m'a même valu d'être témoin d'un mariage d'une jeune fille que j'avais reprise à l'extérieur de l'établissement. Place Saint-Paul. Que voulais-je dire? Oui, je ne sais pas quelle est la réalité du sentiment qui les lie. Peut-être est-ce un sentiment sincère. On peut être amoureux à 16 ans, on peut être réellement amoureux à 16 ans, on peut vivre un amour sérieux à 16 ans. J'en sais quelque chose. Donc, je ne méprise pas du tout leur attitude. Mais si c'est une simple rigolade, je ne veux pas en être complice. Et par mon regard, ils m'en rendent complice. Et donc, je peux très bien leur dire, je ne suis pas juge de la qualité de votre relation, mais je suis juge de sa publicité. Et en tant que je suis en présence de cette publicité, au fond, vous m'en rendez objectivement complice. Donc interrogez-vous sur la portée de ce que vous faites. Ça donne des conversations pas mal. Dans la pratique, si on revient à la question de la mixité scolaire, cela veut dire que le rôle de l'école, par rapport à cette mixité, à la présence des garçons et des filles est non pas de nier la différence, mais de la cultiver. Et que cette différence fasse sens dans le regard même de l'adulte. Et de telle sorte que elle puisse être reconnue et être un chemin pour le désir, car c'est vraiment un artifice insoutenable que de prétendre, par exemple, faire participer garçons et filles au même cours de PS. C'est une absurdité. C'est vraiment une absurdité. En plus, je dis, j'ai été professeur de PS. Et d'ailleurs, ça pose le problème, par exemple, des cours de récréation. Quand l'établissement dans lequel j'enseignais est devenu mixte, une première question que j'ai posée, c'est que fera-t-on pendant les récrés? Or, les garçons et les filles, tous les psychologues nous le disent, ne jouent absolument pas de la même manière. Les Anglais ont des mots pour le distinguer, puisque les garçons jouent à des jeux de compétition, game, et les filles jouent à des jeux de coopération, play. Et vous voyez les cours de récréation se présenter comme des centrifugeuses qui balancent à la périphérie les plus faibles, tandis que les garçons se livrent à des jeux violents au centre de l'espace. Et or, la récréation est aussi un lieu d'éducation, est aussi un lieu de socialisation. L'école n'a pas à abandonner la cour de récréation comme si c'était un endroit vague où les gens tiennent de vagues conversations entre les cours. On peut très bien concevoir que, à travers le jeu, à travers le sport, à travers un certain nombre d'activités, on puisse simultanément se divertir et s'éduquer. En particulier, donc, il me semble qu'il est bon, qu'il est souhaitable, à l'intérieur même d'un établissement mixte, de cultiver des activités séparées, la chorale, le scoutisme, le sport, et je dirais même le caté. Car plus une réalité est, si on est chrétien, ce qui est mon cas, on est conduit à penser que plus une réalité est spirituelle, plus elle est charnelle. Plus elle est charnelle, plus elle est spirituelle. Que garçons et filles puissent faire des mathématiques de la même manière, peut-être. Encore que mes collègues de mathématiques me disent qu'il y a une manière féminine de faire des maths. Mais que garçons et filles aient la même manière de faire de la philosophie, ça non. Et c'est encore plus vrai du point de vue spirituel. Car il y a certainement dans la vie spirituelle quelque chose de profondément charnel, alors que les cours de caté soient en présence de garçons et filles, pourquoi pas, mais que ce soit certainement pas pour tenir un discours moyen et aseptisé, un discours asexué. Vous rendez compte? Si le bénéfice de tout ça est de faire des cours de français asexués, des cours de philo asexués, des cours de catéchisme asexués, etc., il devient très difficile, effectivement, au désir de se reconnaître à travers une culture. Madame Bovary n'était pas un homme. À moins qu'on nous change les textes. Concluons, les soucis dont j'ai fait part supposent que l'éducateur ait comme horizon la préparation de l'amour adulte et responsable. Peut-être n'a-t-il pas cet horizon. Peut-être accepte-t-il l'idée libertaire d'un papillonnage sympa, d'un nomadisme sexuel. Auquel cas, on comprend très bien qu'il n'intervienne pas. Et qu'il laisse les premiers élans de ce nomadisme se développer. Mais si l'éducateur a pour horizon l'ouverture à une liberté responsable, à une affectivité responsable, je dirais même à une préparation de l'amour conjugal, il est essentiel que les différences soient posées et que soit posée simultanément l'idée d'une responsabilité, l'idée que l'on peut se faire mal avec son corps, que l'on peut faire mal à l'autre, que l'on peut mentir à l'autre avec son corps, que l'on peut se mentir avec soi-même avec son corps, car il n'y a rien qui nous trompe plus que nos sensations. Il n'y a rien qui nous trompe plus que nos émotions. Et s'il y a un lieu de la violence, c'est bien le corps, y compris dans les gestes de tendresse. Et il est important de manifester, de le dire, mais aussi de manifester à un adolescent que il peut faire souffrir, par exemple. Moi, c'est un de mes souvenirs de... C'est une des rares choses que ma mère médite. Mon garçon, fais attention, ne fais pas souffrir une fille. Bon, vous m'avez écouté. Mais l'idée que l'on puisse faire souffrir, l'idée est simple. Et que l'on peut faire souffrir parce que le corps ment. Et qu'il n'y a pas d'évidence de soi, des émotions que l'on éprouve. Vous le voyez, le problème, cet exposé ne tend pas du tout à remettre en question la mixité scolaire. La mixité scolaire peut être une très bonne chose, elle est une très bonne chose, je crois même qu'elle est une chance pour l'éducation du désir, à condition que l'adulte soit présent. Si l'adulte n'est pas présent, c'est pas du tout une chance pour l'éducation du désir. Si l'adulte n'est pas présent, c'est une mixité de fait. Une mixité de hall de gare ou de boîte de nuit. Et la mixité, donc, est une chance pour l'éducation du désir, si les éducateurs sont présents, responsables, ce qui suppose que ils aient eux-mêmes suffisamment mis en lumière leurs propres émotions, leur propre rapport à la sexualité, leur propre rapport au désir. Car la difficulté de ce professeur qui regarde le plancher quand il voit des élèves s'embrasser, c'est sa peur. Et c'est pas simplement la peur du qu'en tira-t-on de ses collègues, mais c'est aussi la perception qu'il a de lui-même et de la liberté qu'il a à l'égard de ses propres émotions, car il est toujours vrai que dans le geste éducatif, évidemment, l'éducation donnée est aussi liée à l'éducation que l'on se donne à soi-même. Il est toujours vrai que l'on s'éduque en même temps que l'on éduque les autres. C'est comme ça aussi que les enfants nous obligent à être des adultes. Mais si on se dérobe au fait que les enfants nous obligent à être des adultes, on leur interdit à eux, en tout cas, d'avoir la chance d'en devenir.